Une femme, fichier 5. Les cheveux en désordre, l'épaule nue, la moue gracieuse d'une femme jeune qui s'éveille, Lucie s'étirait. Et tout au fond de l'épouse délaissée, un sentiment d'envie remua. Sur la table de nuit, un miroir se dressait dans un cadre de fleurs en porcelaine. Elle y vit sa propre image, constata la fatigue de ses traits, la flétrissure de sa peau, le bleuissement de ses paupières, sa pauvre figure lasse et ravagée. Le corps jeune et ferme dont elle devinait les lignes lui rappela son corps à elle, pesant et sans forme. Et elle eut l'intuition brusque qu'elle était vieille, infiniment vieille, aussi vieille que les plus vieilles, puisque l'âge d'aimer était passé. Pour la première fois, cette idée la frappait. Elle en tira une grande tristesse et soudain beaucoup de mansuétude. Elle devait pardonner, car l'outrage ne l'atteignait pas, elle qui n'avait aucun droit à l'amour. Toute trace de jalousie s'évanouit. Un rôle plus noble lui apparut, un rôle de bonté et de conciliation. Elle posa sa main sur la main de Lucie et lentement, sans amertume, « Petite, je sais tout, et pourtant c'est en ami que je viens. » L'autre ne songea même pas à nier. « Ah, ah, vous savez, comment ?»« Oh, bien simplement, une lettre anonyme adressée à ton mari. » Madame Chalmin tressaillit. « Robert, dans ce cas, il sait ?»« Non, il ne sait rien. La lettre ne désigne pas ton complice. » Et d'ailleurs, sa confiance en toi est inébranlable. Lucie respira. Une sorte de calme la remplissait. Madame Bouju-Gavard ne l'effrayait guère. Même une certaine animosité, un besoin d'agression vaniteuse, lui fit prononcer « Du moment que mon mari ignore tout, peu m'importe. » Elle attendit, avide d'une querelle et craintive à la fois. Nulle réplique ne venant, elle se sentit mal à l'aise sous le regard loyal qui la scrutait. À son tour, elle désira gêner son interlocutrice. Comme par distraction, elle ouvrit le haut de sa chemise et montra sa poitrine. Madame Bouju-Gavard reprit « Tu as raison de ne pas me craindre, et la preuve en est que je ne te menace point, je te supplie. » Elle se pencha vers la maîtresse de son mari, croisa la chemise et, se relevant, dit fièrement « J'ai été plus belle que toi, petite, beaucoup plus belle, et je puis l'avouer, j'ai été certes plus aimée et d'une façon plus désintéressée, car je ne permettais aucun espoir. J'aurais pu succomber. Je n'avais pas un mari probe et honnête comme le tien. Le mien déjà m'abandonnait, et j'ai souvent eu près de moi des affections sincères ou me rattacher. » Elle s'inclina et d'un ton de confidence, « Écoute ma confession, Lucie. Tu la rediras si tu veux. Je n'ai pas à en rougir, et peut-être en profiteras-tu. Un jour, j'ai aimé moi aussi. L'homme était jeune, d'intelligence brillante, de cœur solide. Il était libre, moi je ne l'étais pas. J'ai bien pleuré, j'ai cru que j'en mourrais. » Émue, Madame Chalmin baissa les yeux, tandis que l'autre continuait de sa voix grave dont les notes tremblaient. « C'est pourquoi je te pardonne, mon enfant. La lutte d'amour est rude à soutenir, la tentation difficile à repousser. J'ai triomphé parce que cela devait être ainsi, que mon caractère et mes penchants me donnaient des armes. D'autres comme toi, petite, c'est leur nature même qui les pousse. Celles-là, je les excuse et je les plains. » Puis, à l'oreille de Lucie, elle chuchota « Seulement, vois-tu, quelque chose me déroute. Tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas l'aimer, lui. Alors pourquoi ?» Assise au bord du lit, le buste plié en deux, les doigts crispés au drap, elle épiait la parole prête à venir. N'admettant pas la possibilité d'une passion partagée, elle se demandait le mobile du crime. et malgré sa bienveillance opiniâtre, elle avait des minutes de dégoût en s'imaginant l'accouplement de ces deux êtres. D'un ton plus fort où vibrait un ordre, elle insista. « Pourquoi ? Pourquoi ? L'aimes-tu ? » Lucie cherchait, confuse. Pourquoi ? Elle n'en savait rien. Pourquoi Parrain ? Pourquoi les autres ? Qu'en savait-elle ? Elle tenta de démêler la vérité parmi le tumulte de son cerveau. Mais dans ce chaos sombre, où jamais n'avait plongé son œil, elle ne put rien discerner qu'un enchevêtrement d'idées vagues, un fouillis de sensations et de désirs étranges. Du moins, elle eût voulu alléguer quelques raisons péremptoires. Elle n'en découvrit point. Désespérée, elle fondit en larmes et s'abattit sur sa vieille amie. Elle suffoquait, ainsi qu'un enfant qui perd haleine à force de sangloter. Il lui échappait, coupé par un hoquet, des phrases incohérentes, inachevées, où revenait indéfiniment le mot « pardon, pardon ». Comme un enfant aussi, elle le disait, ce mot, avec une intonation de repentir naïf qui semblait signifier « je ne le ferai plus, je ne recommencerai plus, je vous l'assure ». Ses joues ruisselaient de pleurs. Elle avait un de ces gros chagrins qui éclatent sans souffrance vraie, plutôt par une détente des nerfs, et qui se résolvent, après la crise, en un état de béatitude très agréable. Tout lui paraissait s'écrouler sous elle. Plus rien ne demeurait de son bonheur ni de sa réputation. Et elle s'écria « Mon Dieu, que je suis malheureuse !» Madame Bouju-Gavard la berçait entre ses bras, la dorlotait, essuyait ses yeux et ses joues, et, toujours douce et maternelle, « Console-toi, ma fille, toute peine s'efface, tu peux réparer ta faute et l'oublier en ne la commettant plus. Si tu as souillé ton âme, ton cœur est resté bon, j'espère en lui. Sois sage, sois digne, aime ton mari, il le mérite, aime ton fils, tu le lui dois. Avant d'être femme, tu es l'épouse, surtout tu es la mère. » Dans l'âme de Lucie descendait la paix bienfaisante de ses paroles. Le ton singulièrement profond de cette voix la baignait de sérénité. Ses larmes tarirent. Elle admira cette indulgence exquise, souhaita d'y atteindre. D'excellentes résolutions la harcelèrent. Quelle plus noble volupté, le culte du foyer, le souci de l'honneur. Quelle plus enviable tâche, vénérer son mari, instruire son fils. Elle s'y détermina. Le devoir l'appelait. Elle eut soif de sacrifice. Avec combien d'élan elle eut accepté l'occasion de se dévouer. Sa physionomie s'imprégna d'extase, et de l'accent radieux d'un martyr qui vole au supplice, elle déclama « J'agirai selon ce que vous me commanderez, madame. Vos volontés les plus sévères, je les exécuterai fidèlement. Je ne redoute pas le châtiment. J'ai tant à expier. » Ce nouveau rôle l'exaltait. Et pour prouver sans retard l'ardeur de son zèle, à son tour elle débita sa confession. La mine contrite, elle dit le nombre de ses chutes, la date où elle avait rencontré Amédée Richard, sa promenade au jardin de l'hôtel de ville. Mais sa franchise n'alla pas plus loin. Graduellement, inconsciemment, elle dérailla, s'éloigna de la réalité. Elle ne consentait pas à raconter de si piètres liaisons. Reniant donc Amédée, elle termina l'aventure avant le dénouement et n'en fit qu'une incartade regrettable. L'histoire du comte de Saint-Leu était prête. Elle s'en servit. Quand sa mémoire la trompait, elle créait d'autres épisodes. « J'ai opposé, madame, une résistance terrible. Des mois je me suis refusée. La passion m'a vaincue. Quels remords m'ont déchirée. » Elle glissa rapidement sur le docteur Danègre, un des premiers chirurgiens de Paris qui, tous les deux jours, lâchait sa clientèle et s'enfermait à Rouen dans un appartement luxueusement meublé. Et sur Marcof, qu'elle costuma en une espèce de boyard conquis à Dieppe. Elle brûlait d'en arriver à Parrain. quoique ignorant ce qu'elle imaginerait. Mais tout naturellement, les mensonges affluèrent, la fable se construisit, la légende s'établit. Depuis son mariage, Parrain la poursuivait. Elle riait d'abord de cet amour, puis essayait de le guérir par sa patience et sa fermeté. Hélas, le mal empirait. Parrain menaçait de se tuer. Affolée, elle se résigna à un rendez-vous. Il s'y révélait d'une brutalité monstrueuse, et dans la crainte d'un scandale, elle se laissait prendre. « Vous ne vous doutez pas de mon écœurement. Je suis là ainsi qu'une morte, toute pâle. » Elle regardait fixement, immobile, comme si l'affreux spectacle se fût déroulé devant elle. Apitoyée, Madame Bouju Gavard murmura « Pauvre petite, ce qui t'a manqué, c'est un guide sûr, des conseils clairvoyants. Ta mère est trop loin de toi, ton mari est aveugle, le mien t'a corrompu. » Et comme Lucie hochait la tête d'un air découragé, elle l'empoigna par le cou et l'embrassant violemment « Eh bien, c'est moi qui te dirigerai parmi les écueils de la vie. Obéis-moi. Remets entre mes mains ta destinée. Je te sauverai, ma fille. Je serai ton refuge, ton soutien, celle qui t'indiquera la voie droite et te gardera des pièges et des tentations. » Le pacte fut conclu dans un transport généreux. Chaque jour, on devait se voir. Chalmain les trouva enlacés, les doigts confondus. Elles soupirèrent en se quittant. Immédiatement, Lucie entama son œuvre expiatoire. Au déjeuner, Robert fut l'objet de mille attentions, si délicates qu'il ne s'en aperçut point. Mais l'abnégation n'est-elle pas plus héroïque quand elle est secrète? Servie la première, elle choisit les morceaux les moins prisés, immolant à Chalmain ce qu'elle préférait. Elle s'arrangea pour boire le fond de la bouteille de vin. Et comme son fils avait le rhume, elle le moucha plusieurs fois, ce qui la dégoûtait. Au dessert, elle s'assit sur les genoux de son mari, lui sucra son café, et finalement l'adjura de renoncer à son verre de cognac et à sa pipe, comme à des habitudes nuisibles. Il crut à une plaisanterie et voulut passer outre. Elle s'entêta. Son devoir lui ordonnait de surveiller la santé de l'époux. Elle ne s'y déroberait pas. « Non, chérie. Tous les docteurs t'affirmeront que l'alcool et la nicotine ont des effets déplorables. » Il la rembarra avec une brusquerie qu'elle subit sans regimber. Que n'avait-elle à supporter de plus fortes humiliations? À peine seule, elle s'habilla, sortit et se dirigea vers la rue Verte. Près de la gare, elle rencontra Parrain. Il lui dit précipitamment « Je sais tout. Ma femme m'a menacé d'une séparation si ça continuait. Tu m'as bien arrangé, toi, je te remercie. Enfin, ça vaut mieux. Je vais à notre chambre. À tout à l'heure. » Elle ne répondit pas. Outrage qui lui parut une prouesse. Sa vertu triomphait de ce premier assaut. Il n'était plus de péril maintenant qu'elle ne put affronter. Et pour s'en donner des preuves convaincantes, elle foudroya les hommes qui la croisaient d'un regard de mépris. Une allégresse la soulevait. Elle se sentait forte, pure, inaccessible. Elle aborda Madame Bouju Gavard, le front haut, n'ayant plus de reproches à essuyer. En quelques heures, ne s'était-elle pas lavée des taches qui la salissaient? Aucune distance morale ne la séparait de sa nouvelle amie. Deux femmes, également honnêtes, devisaient. L'une valait l'autre. Ces bonnes dispositions ravirent Madame Bouju Gavard. Elle discernait dans cette effervescence de néophyte un symptôme avéré de conversion. Elle la bourra d'avis excellents, de maximes salutaires et de recettes de cuisine propres à flatter la gourmandise de Robert. Il ne faut rien négliger quand il s'agit de se concilier l'attachement de son mari. La ménagère y réussit, hélas, souvent mieux que l'épouse ou que l'amante. Dehors, en plein après-midi, Madame Chalmain hésita. Où aller? Sa maison ne l'attirait guère. Elle en partait d'ordinaire à ce moment pour rejoindre M. Bouju Gavard. Cette fin de journée à traverser lui infligea un certain effroi. Somme toute, elle n'était point préparée à un changement d'existence aussi radical. Au hasard, elle enfila des rues. Le ciel, un ciel brumeux de mars, comprimait la ville morne et ses gouttes en humidité sur les toits et sur le pavé boueux. Des gens marchaient, l'aspect grelottant. De place en place, dansait un fiacre attelé d'un cheval triste. Lucie frissonna. Son enthousiasme s'évanouissait à mesure que le froid pénétrait son corps et que l'occasion de se sacrifier devenait plus problématique. Elle songea que M. Bouju-Gavard l'attendait. Un problème se dressa, terriblement ardu. En définitive, son devoir ne lui dictait-il pas une démarche auprès de Parrain? Quel miracle si elle pouvait l'arracher au mal! L'idée d'un feu clair la sollicitait vivement aussi, mais elle résista, craignant la prétendue brutalité dont elle l'avait accusée. Alors un immense ennui l'accabla, alanguit ses pas, arrondit ses épaules. Elle parcourut les quais, puis se réfugia dans une pâtisserie de la rue Grand-Pont. Justement, Georges Lemercier y commandait des assiettes de gâteaux. Un colloque fut engagé. Tout de suite, le jeune homme parla du bal Le Frêne. « J'en ai gardé une si charmante impression. La couleur, la forme de votre robe, l'arrangement de vos cheveux, tout cela s'est gravé en moi. » Il savait les potins relatifs à Lucie, ce qui lui donnait de l'assurance, et de sa voix mâle et câline, il fit allusion aux promenades parallèles de la rue Jeanne d'Arc. « À cette époque, j'ai eu un grand chagrin, et j'ai voyagé, » ajouta-t-il gravement, expliquant ainsi sa disparition. Elle tira son porte-monnaie, il gémit. « Ne vous en allez pas encore. Il faut bien, j'ai eu froid. » Et je rentre me réchauffer. » Il eut une hardiesse folle. Si j'osais, j'ai par là un petit réduit assez confortable, où je vais quelquefois fumer. Une allumette et le bois flamberait. La riposte de Lucie fut spontanée, involontaire. Pourquoi pas? Seulement, vous savez, le temps de me remettre d'aplomb, et c'est tout. Il fut stupéfait de son succès. Vrai? Vrai, vous consentez? C'est donc bien extraordinaire. Elle le suivit de loin, réjouie de cette escapade qui coupait l'interminable journée. En route, elle se rappela ses promesses à Madame Bouju-Gavard et tenta vainement de se confectionner un remords. D'ailleurs, que risquait-elle? Elle était si sûre d'elle-même. L'appartement, situé rue Nationale, se composait de deux pièces, un boudoir et une chambre dont on apercevait le lit. Lemercier alluma le feu, Lucie examina le salon. Une étoffe de jute rouge brique couvrait les murs. Tout autour, des divans couraient, vêtus de soie brillante. Un lot d'ombrelles et d'éventails japonais, artistement disposés, donnait de la gaieté. Un palmier et un fusain jaillissaient. Ah, voilà qui est fait. « Maintenant, chauffez-vous !» prononça Lemercier, se redressant et approchant un fauteuil. Elle s'assit, les pieds sur les chenets, les mains croisées au-dessous de ses genoux. Elle tenait ses jupes relevées, de façon à découvrir ses chevilles et le bas de ses mollets. Lui disposa deux coussins à terre et s'accroupit auprès d'elle. La scène de séduction commença. Il possédait à ce sujet un programme exact dont il ne s'écartait jamais, en ayant toujours observé la réussite. D'abord les phrases banales, articulées d'une voix tendre, fluèrent. Les phrases préparatoires destinées à rassurer la femme et à l'engourdir. Puis vinrent les compliments plus directs, l'hommage non aiguisé d'un amour qui se cache encore, les exclamations admiratives sur la forme du pied, sur la finesse de la jambe, enfin ce qui constitue la première attaque. La période des menues faveurs et des mélancolies succéda. « Mettez-vous donc à l'aise, vous devez étouffer sous ce manteau, et vos gants. » Il lui prenait les doigts et les baisait l'un après l'autre. « Quelle chose affreuse de ne vous être rien !» Pas même un ami, vous qui m'êtes tout déjà. Vous m'aurez accordé une minute de votre existence et cette minute décide de mon existence entière à moi. » Et il supplia. « Lucie, ce jour béni n'aura-t-il pas de lendemain ?» Elle ne répondit pas, la poitrine oppressée, le regard languissant. L'instant se prêtait à une déclaration. Il se déclara. Et son « Je vous aime, Lucie. Oh, ma Lucie, je t'aime !» eut les modulations lentes, désespérées, passionnées que nécessite un aveu efficace. Elle se pelotonna, toute frémissante. Jamais encore on ne lui avait dit ces mots avec tant d'émotion. La période d'action s'ouvrait. Il l'entama par une prière. « Lucie, au bal, j'ai vu vos épaules. Me refuserez-vous le même spectacle, ici où je serai seule à les voir ?» Un à un, la main timide, il défaisait les boutons de son corsage. L'orgueil de sa chair la rendit lâche. Elle n'eut même pas l'idée de le repousser. Elle se coucha le soir, l'esprit satisfait, comme on se couche après une journée bien remplie. Chapitre 6. L'intimité de Madame Bouju-Gavard et de Madame Chalmin s'établit sur des bases solides. L'esprit de Lucie reçut là une nourriture abondante, son âme une forte éducation. « Tout est à refaire en toi, ma fille !» disait Madame Bouju-Gavard en son langage un peu emphatique où se révélait la fréquentation des prêtres. « On t'a enseigné les préjugés, mais non les principes. On a négligé de te donner les idées larges et justes, les préceptes et les exemples, tout ce qui forme enfin les inébranlables fondations où l'on peut bâtir. » Lucie écoutait respectueusement. Les mots chantaient à son oreille. Elle leur accordait assez d'attention pour en comprendre le sens et même les discuter. Mais elle ne tâchait nullement à se les inculquer, encore moins à se conduire d'après les maximes émises. Son approbation était toute extérieure. « Comme c'est vrai ce que vous dites là !» s'exclamait-elle, convaincue, sans que l'envie lui vînt d'obéir à cette vérité. Ces 2 heures d'exaltation quotidienne lui suffisaient. Elle y puisait beaucoup d'estime pour elle-même et une grande indulgence pour ses faiblesses. À l'issue de ses confidences, elle prenait le tramway et s'en allait chez le mercier. En revanche, elle mettait à fuir par un acharnement méritoire. Là gisait sa probité, ce qui lui procurait l'illusion d'être honnête. Elle pouvait soutenir sans honte le regard de sa vieille amie, puisqu'elle ne la trahissait plus. La liaison de Lucie et de Georges Le Mercier ne comporta ni passion ni excès sensuel. Ce fut un passe-temps, un adultère de convenance. Les caresses finies, on causait. Georges initia sa maîtresse au mystère de la vie parisienne, sujet captivant. Les célébrités de la capitale défilèrent, les actrices et les filles galantes, toutes celles dont on cite dans les journaux boulevardiers les noms, les robes et les déplacements. Les anecdotes foisonnaient. Et Lucie contemplait, bouche béante, avec vénération, cet homme qui avait partagé le lit des courtisanes illustres. Elle brûlait de les connaître. Elle rêva d'orgie en leur compagnie. Le mercier dut à ses relations un relief considérable. Ses prodigalités achevèrent de conquérir Lucie. L'offre de 2 superbes solitaires, montées en boucles d'oreilles, lui inspira même une tendresse démonstrative. Elle les cacha au fond d'une armoire, entre 2 piles de serviettes, et elle ne cessait de les en sortir pour les examiner et les palper. Georges fut malheureusement contraint à une absence d'une ou 2 semaines. Ce fâcheux départ détraqua l'existence méthodique de Lucie. Une telle régularité présidait à l'emploi de son temps. Dès lors, tout l'horripila. Son intérieur, sa chambre, la couleur des rideaux, les piaillements de René. Robert en suivit le contre-coup. « Qu'est-ce que tu as ? » grognait-il. « Tu es d'une humeur massacrante. Quel drôle de corps tu fais tout de même avec tes changements de caractère !» Bientôt, il n'eut plus à se plaindre. Lucie recouvra son calme. Une après-midi, en effet, Parrain l'arrêta en pleine rue. « Je te tiens, tu ne t'en iras pas, » bredouillait-il. « Écoute-moi, viens là-bas, une fois seulement. » On les observait, il s'en alla. Elle le suivit, rue Saint-Georges. Il n'y eut aucune réconciliation. Leurs habitudes reprirent leur cours, comme si rien ne les eût interrompues. 2 semaines plus tard, Lucie recevait poste restante une lettre où Le Mercier l'avertissait de son retour et lui fixait un rendez-vous. Elle hésita d'abord. Une pudeur singulière la révoltait contre ce partage. Cela fut de courte durée. La perspective de cette double intrigue et des complications qui en résulteraient la séduisit beaucoup, au contraire. Elle en discerna vite le côté pittoresque. Au jour assigné, elle fut exacte. De notables voluptés la récompensèrent de cette résolution. Ayant commencé par diviser sa semaine en 2 parts égales, dont elle réservait l'une à Le Mercier et l'autre à Parrain, elle abandonna ce système d'une monotonie trop pesante. L'imprévu la tentait. Elle obligea ses 2 amis à l'attendre journellement de telle heure à telle heure. Elle choisissait. Le plus souvent, elle se décidait dehors, à la dernière minute. De la rue Verte, le tramway la menait rue Jeanne d'Arc, en face de la tour Saint-André. Là, elle se consultait. Irait-elle à droite, chez le vieux, ou à gauche, chez le jeune? Son cœur se taisait, sa chair aussi. Seuls des motifs futiles la guidaient, sans que jamais elle les analysât. Il lui arriva même, en un moment d'embarras pénible, de flâner dans le petit jardin Saint-André. Des enfants jouaient, des vieillards caquetaient. Elle examina la façade en bois sculpté, d'un travail si merveilleux que l'on a plaqué sur une maison neuve, en un coin humide du square. Le gardien, l'accostant, lui infligea des explications où elle ne saisit que le nom de Diane de Poitiers. Puis elle escalada les marches qui grimpent au sommet de la tour, et elle se mit à chercher l'emplacement probable des toits qui abritaient ses 2 amants. Et, accoudée contre la balustrade en pierre de la plateforme, elle rêvassa. À qui donner la préférence? La descente lui rompit les jambes, ce qui la détermina en faveur de Parrain, car la route était plus courte à effectuer. Une autre fois, la poursuite d'un monsieur la divertit au point qu'elle en négligea ses rendez-vous. Elle le traîna dans Saint-Sever. Mais comme il ne l'abordait pas, elle se fit promener en voiture le long de la Seine, et elle s'ingéniait à évoquer la mine piteuse des 2 infortunés qui se morfondaient là-bas, impatients de son corps. Ces accès d'indépendance découlaient du reste d'une nouvelle théorie dont les lois s'étaient insensiblement dévoilées à elle. Elle s'octroyait, après ses diverses aventures, de justes titres à la connaissance de l'homme. Aussi pouvait-elle le juger sans crainte d'erreur, et de ses méditations, elle concluait qu'on doit le traiter avec rudesse. L'indifférence le mate. Il faut le plier aux caprices les plus fantasques et l'asservir comme un être inférieur, prêt à toutes les lâchetés. Cette théorie, elle l'appliquait à tort et à travers, quand elle s'en souvenait. Tel jour, elle eut un retard exagéré. Tel autre, elle se refusa. Elle modifia l'apparence de son humeur, d'ordinaire égale. Elle restait muette, sombre, énigmatique, puis le lendemain riait d'un rire nerveux. « Je les affole !» se disait-elle. Elle les lassait plutôt. Le Mercier, surtout, aspirait à la saison des bains comme à une délivrance méritée. Elle continuait ses visites à Madame Bouju-Gavard. La société de sa vieille amie lui plaisant toujours. Elle s'abreuvait de ses maximes et de ses sermons avec la même soif ardente. Le vice l'emplissait d'une horreur vertueuse. Pour montrer la ténacité de son zèle, elle confessait un tas de péchés. Quant à ses rapports avec Parrain, elle n'y songeait jamais auprès de Madame Bouju-Gavard, s'évitant ainsi des remords importants. Le 1er août, on partit pour Dieppe. Le mercier promit d'y faire maintes apparitions, mais il ne vint pas. Madame Chalmin écrivit, ne reçut aucune réponse, et n'y pensa plus. Au bord de la mer, Lucie subit cette crise d'indolence où les femmes vivent d'une vie animale, sans rêve ni désir. Elle s'engourdissait dans une langueur qui reposait ses membres et son cerveau. Tout incident l'effrayait, capable de troubler cette somnolence béate. Elle n'eut d'ailleurs pas à fuir l'hommage des hommes. Son extérieur, se modifiant avec ses dispositions, ne le provoquait point. Cela dura des semaines. Chalmin, que l'extension de ses affaires avait obligé à louer un local plus vaste, rue de Crône, restait à Rouen pour surveiller l'aménagement de ses nouveaux magasins, et n'arrivait que le samedi soir. Ses baisers suffisaient à Lucie. En ces rares instants de méditation, elle croyait fermement qu'elle persévérerait dans cette attitude. L'ère du mal était close. Elle ne s'en affligeait ni ne s'en réjouissait. Un matin, en entrant au salon de lecture du casino, elle heurta presque Madame Berchon. Elles s'arrêtèrent net, embarrassées l'une et l'autre. Puis Henriette, bravement, tendit la main. « Ça fait du bien de se revoir, » dit l'une. La seconde répliqua, « C'est vrai, le hasard vous divise, mais à la première occasion, on se rapproche. » Puis elles s'adressèrent des excuses mutuelles. Madame Chalmin allégua la sévérité de Robert en ce qui concernait ses relations. Henriette, à son tour, prétexta « Moi aussi, Adrien m'a prié de vous éviter. On racontait sur vous des choses. » Elles soupirèrent. « Comme on est mauvais !» L'injustice de leurs époux les indigna. Elles se ligueraient contre eux. « Écoutez, » dit Henriette, « nous sommes descendus à l'hôtel de Normandie. Nous y avons fait la connaissance de gens très bien, des Parisiens, monsieur et madame Mirou. Nos maris s'en vont les après-midi à la pêche ou en excursion. Venez, je vous présenterai Marthe Mirou. Elle est charmante. » L'amitié des deux femmes renaquit, plus impérieuse et plus communicative. On lâcha tous ses secrets. Qu'avait-on à se cacher? Henriette énuméra ses diverses coquetteries, intrigues inachevées qu'elle brisait toujours avant le dénouement. Lucie, pour n'être point en reste, arrangea d'une manière honnête trois ou quatre de ses aventures. Elles furent frappées de la similitude de leurs goûts. Madame Chalmin les définit ainsi. « C'est adorable de voir la joie que vous inspirez par un mot gentil, le chagrin que cause votre maussaderie, le désir dont s'allument les yeux qui vous contemplent. Quant à moi, je ne souhaite rien de plus. Je veux bien m'amuser. Je ne ferme pas la bouche à ceux qui me disent leur amour, mais c'est tout. » Cette profession de foi obtint l'entière adhésion d'Henriette. Leur vertu réciproque leur parut intacte. Elles se vouèrent une estime inébranlable. La droiture de leurs principes étant acquise, elles purent dès lors confesser l'ardente curiosité qui les poussait vers le mystère défendu. « Qu'y a-t-il de si différent ? » s'écriait Madame Berchon. « Pourtant, l'impression ne doit pas changer parce qu'elle vient d'un amant au lieu de venir d'un mari. Nos maris ont toujours été les amants d'autres femmes, et ils agissaient, je crois, avec ces femmes comme avec nous-mêmes. » Et Lucie, dominée par le rôle qu'elle jouait, répondait d'un air songeur. « N'importe, ma chère, il y a bien une différence. Sans cela, pourquoi tant de femmes seraient-elles coupables ?» Elles consultèrent Marthe Mirou. D'un air distrait, elle soupira. « Ah, mon Dieu, si vous saviez comme ça m'est égal !» Elle avait des sourcils noirs qui se rejoignaient en une seule ligne épaisse, des yeux sévères, et, tranchant sur la pâleur livide de sa peau, une bouche trop rouge, comme peinte au sang. Elle parlait peu. Selon Madame Berchon, elle devait avoir quelque peine secrète. De vagues plaintes formulées de part et d'autre, et la froideur visible de leur relation, laissaient supposer un désaccord profond entre elle et son mari. « Il y a un drame là-dessous, » déclarait Henriette. « Je n'en sais rien, » disait Lucie. « En tout cas, son regard a une insistance gênante. Il se plante sur vous et n'en bouge plus. Moi, il me fait presque peur. » Elle attribuait, en effet, à ce regard une acuité prodigieuse. Il la fouillait, déchirait le voile de mensonge dont elle s'affublait et lisait couramment le livre de sa vie. Et Lucie, tout en étalant l'austérité de ses mœurs, devinait que sous le masque impassible de cette femme errait un sourire incrédule. Madame Mirou n'alla-t-elle pas jusqu'à l'interrompre par une impolitesse? « Cela ne prouve rien. Vos théories, vous seriez fautive que vous les avanceriez quand même. » Madame Chalmin rougit, décontenancée. Elle s'appliqua désormais à la contredire dans ses moindres propos et à manifester son antipathie par des vexations. Marthe affectait de ne le point remarquer, mais profitant d'une absence de Madame Berchon, elle mit sa main sur l'épaule de Lucie et murmura « Comme vous êtes mauvaise !» Habituellement hautaine et dure, la voix avait pris une inflexion douce. Le visage se détendait en un sourire, et les yeux impitoyables, avaient une tristesse touchante. Elle demanda « Pourquoi me traitez-vous comme une ennemie ?» Lucie ne répondit pas, toute remuée, et l'autre continuait « Ne soyez plus ainsi, cela me fait mal. J'aurais tant aimé vous plaire et devenir votre amie, votre seule amie. Vous êtes si belle. » Madame Chalmin crut comprendre. Une légère répulsion, mêlée de crainte, la pénétra. Elle résolut d'éviter les tête-à-tête. Pourtant, le lendemain, ce fut elle-même qui l'appela, au sortir de l'eau, d'un ton de défi. « Vous cherchez une cabine? Voulez-vous la moitié de la mienne? Vous vous déshabillerez pendant que je me rhabillerai. » La cabine était peu spacieuse. Leurs mouvements se contrariaient. Madame Mirou dit « J'attendrai que vous soyez prête. » Mais comme Lucie se plaignait du froid, elle saisit une serviette. Des gouttes d'eau ruisselaient sur les bras et sur les épaules. La chair frémissait. Elle frotta vigoureusement jusqu'à ce que le sang affluât à la peau. « Ça va-t-il mieux ?» Lucie, levant ses paupières qu'elle tenait à moitié baissées, prononça « Oh oui, j'étouffe maintenant. » Elles se regardèrent, silencieuses. Sous les pas des baigneurs, le galet criait, les planches résonnaient. On cogna deux fois à la porte de la cabine. « Est-ce bientôt libre ici ?» Elles se taisaient. Leur solitude s'accroissait de tout le tumulte avoisinant. Par la lucarne, un rayon de soleil s'introduisit où grouillaient des atomes de poussière. Lasses de se voir en cachette, ces trois dames commirent l'imprudence de se promener ensemble. M. Berchon et M. Mirou les rencontrèrent. Henriette s'écria « Figurez-vous que nous nous sommes retrouvés dans un magasin. Nous étions fâchés sans raison. La réconciliation a été vite faite. » Désormais, Lucie vint ouvertement à l'hôtel de Normandie. Une des conséquences de ses rapports avec Madame Berchon fut un réveil d'élégance. Son extérieur ne varia pas, mais son goût se dégrossit, et spécialement, elle devint soucieuse de sa toilette intime. Henriette portait d'exquis dessous, qu'elle combinait et confectionnait elle-même. Elle inventait des formes de chemise d'une indécence adorable. Ses jupons et ses pantalons avaient un cachet particulier, et en tout, dans le choix des surats et des batistes, dans la nuance des faveurs, se révélait un raffinement délicat. Lucie copia ses modèles. Aussitôt réunies, elles se mettaient au travail. Ces messieurs s'attardaient volontiers en leur société, retenus par tout ce linge de femme et par le babillage de Madame Chalmin. Ce ne fut vraiment pas en vertu d'un plan que Lucie les accabla de ses coquetteries. Elle se déployait naturellement, à son insu. L'exécution du mal, chez elle, précédait l'idée de ce mal. Et encore, cette idée la concevait-elle toujours, même l'acte accompli. Ses attaques étaient brutales. Elle s'adressait aux instincts, non au cerveau ni au cœur. au mâle, non à l'homme. Elle ne séduisait pas, elle excitait. Ainsi visée, l'adversaire capitulait aussitôt, et elle dégageait de la promptitude de sa victoire un motif de vanité. La lutte, cette fois, se compliquait d'un attrait spécial. Lequel des deux élus accepterait le premier son joug? La naissance des désirs fut instantanée. En pouvait-il être autrement? Elle en suivit avec intérêt la marche rapide et attendit l'aveu ou l'assaut, signe de la défaite. Émouvant tournoi. Monsieur Mirou devança son rival. Il était laid. Mais quelle originalité! Être la maîtresse du mari, maintenant! Et aussi, quelle revanche sur Marthe, dont elle subissait toujours l'ascendant inexplicable! Elle consentit à des rendez-vous. Quand le ménage s'en alla, Lucie le conduisit au train. Les adieux arrachèrent des larmes, et par la fenêtre ouverte, les époux penchés lui envoyaient des baisers et agitaient leurs mouchoirs. Elle en fut tout attendrie. C'est si bon d'être aimée! Le désarmement d'Adrien Berchon requit un effort qu'elle ne prévoyait pas. Mais il s'agissait de tromper Henriette, et elle s'y adonna de toute son énergie. Une manœuvre lui réussit surtout. Elle avait copié un seau de lit, une sorte de peignoir en soie imaginé par Madame Berchon, long, ample, agrafé sur la hanche, et dont les deux pans, en se croisant, réglaient le décolletage. Elle dit à Henriette « Ta chambre est libre, je vais le mettre. » Elle disparut. Au bout de quelques minutes, elle appelait « C'est ravissant, viens donc voir !» Adrien, un peu énervé, ricana « Et moi, suis-je de trop ?»« C'est l'affaire de votre femme. » Madame Berchon acquiesça « Du moment qu'il t'a vu au bain. » Lucie feignit une grande modestie et serra pudiquement le haut de son peignoir. Mais ainsi, elle plaquait l'étoffe souple qui se gonflait sur le double contour de sa poitrine. S'efforçant d'assurer sa voix, Adrien jugea « C'est charmant et d'un artistique !» Devant lui, la jeune femme, indifférente, paradait, cambrait les reins, se drapait dans le voile impalpable qui modelait les lignes de son corps. Un autre jour, sous prétexte d'essayage, elle singea l'hésitation. Puis, comme excédée de toutes ces mesquineries indignes, « Bah, c'est moins inconvenant qu'au bal, » fit-elle, « n'est-ce pas ?» Elle déboutonna son corsage, avec une lenteur calculée, de manière à n'élargir que progressivement l'intervalle où luisait sa peau. Puis elle l'enleva, et durant toute cette séance de couture, elle se tint les bras et la gorge nus, sans gêne ni affaiterie. Henriette, d'une nature peu ombrageuse, ne s'en formalisa point. Adrien regardait. Elle poussa la perfection de son jeu à la dernière limite. De fait, elle excellait à cette agression patiente. Nul souci étranger n'en détournait son esprit. Tout son être, et individuellement aussi, chaque partie de son être, membres et figures, chaque émanation, geste, sourire ou voix, concourait à l'unique et même besogne. À peine jetait-elle une excuse de son air ingénu. « Un homme marié, ça ne compte pas. C'est drôle, le mari d'une amie, ce n'est plus un homme pour vous. » Elle le gourmandait. « Dites donc, vous me paraissez bien froid. Ce n'est pas si vilain, cependant. Vous pourriez vous fendre d'un compliment. » Et elle désignait ce qu'il fallait louer avant tout, la blancheur et le grain de sa chair, la courbe de sa nuque, l'exiguïté de son poignet. Elle avait toujours soin, en ôtant son corsage, de le déposer près de lui, pour que l'irritât sa tiède odeur de femme. Elle s'enquit de son parfum préféré et s'en imprégna. De la chambre voisine où elle essayait les modèles, elle lançait des exclamations de joie. Souvent elle rentrait, entourée d'une couverture de voyage, d'un simple drap, ou vêtue d'un de ses costumes à lui. Le pantalon étriqué moulait ses jambes, son cou nu émergeait du veston. Ayant tiré d'une malle une robe de soirée défraîchie, elle l'échancra d'un coup de ciseau. s'en habilla furtivement et, priant Henriette de jouer une valse, tendit le bras à Monsieur Berchon. Son buste entier semblait surgir. Elle rayonnait d'une beauté puissante. Ils dansèrent. Aussitôt, il s'aperçut, à sa taille qui ployait libre d'entrave, qu'elle n'avait point de corset. La résistance d'Adrien ne pouvait durer. Une après-midi, Madame Berchon, obligée de sortir, laissa son amie seule. La trahison s'opéra. Cette époque fut pleine de charme. Les Bouju-Gavard arrivant, Madame Chalmin se prodigua. Toutes les minutes de son existence étaient occupées, et d'une façon diverse. Forcée de vaincre les remords de Monsieur Berchon, elle dut constamment attiser l'ardeur de son désir. Elle ne pouvait, sans éveiller les soupçons, renoncer au commerce salutaire de Madame Bouju-Gavard. Et il lui fallait, en outre, consacrer de temps en temps quelques heures à Parrain. Tout cela nécessita, pour garder la confiance de sa mère et de son mari, pour endormir les inquiétudes de Monsieur et Madame Bouju-Gavard, et pour tromper Madame Berchon, une série de mensonges inextricables, dont elle s'acquitta avec l'habileté la plus consommée. Cette situation se maintint jusqu'à la fin de l'année, puis s'atténua. La passion de Parrain fléchissait. Des symptômes de diabète se déclarant, il estima prudent de ne conserver sa filleule que comme une maîtresse agréable, toujours prête quand le fouetterait un caprice passager. Enfin, Madame Chalmin se lassait de Monsieur Berchon. Un incident absurde gâta cet état de choses qui se dénouait d'une manière si pacifique. Henriette trouva son amie assise sur les genoux d'Adrien. Pas une injure ne fut échangée. Du doigt, Madame Berchon montra la porte à sa rivale et la chassa. Incapable d'une haine concentrée, Lucie lui voua une rancune intermittente qui la conduisit souvent à énoncer devant le monde des critiques calomnieuses. Chapitre 7. Le cercle des Nocturnes organisait un bal costumé au Théâtre Français à l'occasion du Mardi Gras. Ainsi que l'expliqua Paul Bouju-Gavard à Madame Chalmin, le cercle des Nocturnes organisait un bal costumé au Théâtre Français à l'occasion du Mardi Gras. Ainsi que l'expliqua Paul Bouju-Gavard à Madame Chalmin, le siège du cercle était une salle de café, dépendant du théâtre. Les Nocturnes se réunissaient là tous les soirs et invitaient les artistes et les figurants. Ils avaient comme président le fameux Verdol, le chef reconnu depuis 15 ans par la jeunesse de Rouen, un type de viveur provincial d'un âge certain, correct, nerveux, sec, sanglé dans sa redingote. La gloire des Nocturnes consistait à veiller toute la nuit. Un brouillard de fumée emplissait la pièce. Les soucoupes formaient de hautes piles sur les tables. On échangeait des phrases. Les postures et les bâillements indiquaient un ennui incommensurable. Nul cependant n'osait donner le signal de la retraite. De temps en temps, des discussions s'élevaient concernant la politique, la morale, la religion, la peine de mort, le suicide. On se lançait les vieux raisonnements et les formules consacrées. Un esprit étroit et banal caractérisait ces disputes. « Voilà ce que c'est que le nocturne !» termina Paul. Un fumoir et une buvette, une réunion de désœuvrés qui ne savent ni s'amuser, ni même s'embêter convenablement. En résumé, un assommoir. Or, le lundi gras, une dépêche de Brest apprit à Robert la mort d'un oncle et ses droits d'héritier. Il partit le lendemain. Cette coïncidence décida Lucie. En revenant de la gare où elle avait accompagné son mari, elle acheta du surat bleu ciel, du galon et de la mousseline raide. À minuit, quand elle se présenta, le bal battait son plein. Au fond, l'orchestre se démenait. Des couples dansaient, peu nombreux, tristes. Les loges étaient vides. Au haut de l'escalier, une masse compacte d'habits noirs interpellait les masques, grossièrement, sans à-propos ni légèreté. une gêne planait. Par respect humain, la plupart des hommes n'avaient point endossé de déguisement. La crainte du ridicule étouffait toute spontanéité. On s'épiait en gens accoutumés à s'ennuyer, et que déroute une occasion de plaisir. Mal à l'aise, Lucie se promena dans les couloirs déserts. Elle s'était fabriqué un long fourreau de soie, simple et collant, encerclé sous la poitrine d'un ruban d'or en guise de ceinture. Des manches très bouffantes élargissaient ses épaules. Un vaste chapeau à capote carrée, à visière immense, lui écrasait la tête. On finit par remarquer son costume. Son isolement fit naître la curiosité. On s'interrogea. Personne ne la connaissait. Des groupes commencèrent à l'entourer, d'où on l'apostrophait en termes équivoques. Elle s'adossa contre un mur, les mains ballantes. Elle cherchait à répondre et ne savait que dire. Quelqu'un voulut soulever son loup. L'irruption de Verdol la délivra. « À bas les pattes, messieurs! Vous ne voyez donc pas que cette merveilleuse est une femme du monde? Je la prends sous ma protection. » On éclata de rire. Mais elle, flattée, s'imaginant qu'il avait deviné son incognito, lui pressa la main en murmurant « Je vous remercie. » Ils se postèrent en un coin de la salle, entre deux massifs d'arbustes. Verdol, jouant respectueusement son rôle de guide, la renseigna sur les masques qui défilaient. « Ça, c'est Chaussette, cette boulotte que tu vois là-bas en chatte blanche. Elle change d'amant comme un homme de chaussette. On ne lui a jamais connu d'entreteneur attitré. C'est un fiacre qu'on loue à la journée. Voici Joséphine Galet en Diane. Assez risqué le décolletage. D'ailleurs, qu'importe, elle eût pu se promener toute nue ici sans que le spectacle fût nouveau pour aucun des spectateurs. La Sappho, c'est Jeanne. Pas belle, mais agréable, bonne mère de famille. Le monsieur qui l'escorte, ce grand maigre à l'aspect de cadavre, lui verse 1000 francs par mois. Chiffre énorme à Rouen, pour laisser croire qu'il est encore capable d'aimer. Tu remarqueras, ô femme du monde, combien tes congénères du demi, ici, sont vilaines et disgracieuses. Ainsi, contemple ces deux sœurs, Alice la boutonneuse et Cécile la joufflue. Sont-elles assez laides? Et Julia Coton, ainsi nommée parce qu'elle essaie de combler les vides de sa nature. Et Sarah Bailey, la danseuse des arts, qui n'a de bien que ses jambes, et tout le reste abominable. Cette revue divertissait Lucie. Elle goûtait une jouissance bizarre à se sentir dans ce milieu vicieux, parmi ces femmes vendeuses de leur corps. Elle souhaitait de causer avec elles, de s'informer de leurs amours, de leurs pensées, des occupations particulières qu'elles se créaient. Elle devait employer des odeurs spéciales, des pâtes et des savons inusités. Que mangeait-elle? Et à quelle heure? Évidemment, l'avenir les rendait soucieuses. Verdol continuait. « Ah, voici l'épouvantail de Rouen, le frère de la belle Henriette, Marcel Lebon, anarchie et spécialité de femme mariée. Grande dame, boutiquière ou cocotte, il les trouve toutes jolies, si elles sont pourvues d'un époux. Nul doute que sa compagne, cette grande magicienne voilée, ne soit dans ce cas. Si j'allais les intriguer, fit Lucie. Va, femme du monde, je te surveille. Elle marcha vers eux et dit, Marcel, moi aussi je suis mariée. Il répondit sentencieusement, le mari est la beauté de la femme. Et il demanda, as-tu trompé le tien? Non, pas encore. Que ceci donc, prononça-t-il, te serve de début. Il lui prit la taille, de ses lèvres écarta la dentelle de son masque et lui baisa la bouche. « Tu es marqué du sceau des élus, je te bénis. » Elle s'éloigna, mais déjà la foule s'inquiétait d'elle et observait ses gestes. Des hommes la suivirent, notamment Paul Bouju-Gavard, qui remorquait une mendiante en haillons. Il semblait un peu gris. Il lui lança d'une voix pâteuse, Hé, hey, la femme du monde, t'as donc une tache de vin sur la joue ? Elle s'approcha de lui. « Souviens-toi de Madame Ferville. » Il eut un sursaut. Son ivresse se dissipait et il balbutia. « Toi, ici ? Eh bien, et Robert ?» Elle l'interrompit. « Tais-toi donc, tu vas me compromettre. Si j'ai besoin de ton secours, je t'appellerai. » Une gaieté secouait les nerfs de Lucie. L'atmosphère chaude l'étourdissait. Verdol l'ayant menée au buffet, elle vida deux flûtes de champagne. Ses idées devinrent moins précises. Elle eut l'imprudence de raconter à son cavalier, au sujet de leurs relations mutuelles à Rouen, certains détails qui le convainquirent de sa situation sociale. Il s'en ouvrit à ses amis. Dès lors, elle fut l'objectif de la salle entière. On organisa des danses autour d'elle et l'on vociférait « Ohé, la femme du monde !» Elle parvint à se dégager. Vagabonda dans les couloirs, soutint plusieurs luttes, subit au passage les baisers d'inconnus qui se ruaient sur elle, et finalement se retrouva avec une trentaine de convives devant une table chargée de viande froide. C'était le souper des nocturnes. Tout de suite, Verdol se leva. « Messieurs, c'est la première fois qu'une femme du monde nous honore de sa présence. Je propose qu'on la nomme présidente de notre cercle. » Une salve d'applaudissements accueillit ses paroles. Le repas ne fut qu'une longue ovation. On l'acclamait quand elle buvait, quand elle causait, quand elle gesticulait. Excitée, elle but, bavarda et se remua beaucoup. Au café, on la gratifia d'un triple banc. Il lui fallut, pour retourner au bal, accepter l'offre d'un monsieur qui lui tendait le bras. Ses jambes fléchissaient. Elle voulut s'en aller, mais une rangée de masques lui barra le chemin du vestiaire. Se résignant, elle avisa Chaussette, qui avait retiré sa fourrure de chatte et se promenait en maillot et en jersey rose. « Dis donc, Chaussette, combien d'hommes as-tu jusqu'ici ?»« Pas tant que t'en auras, » fit l'autre. Lucie s'appuya sur son épaule. Elles marchèrent ensemble. Son vœu s'était réalisé. Elle conversait avec une de ses femmes. Elle s'efforça de se rappeler les questions qu'elle désirait leur poser. Son cerveau alourdi s'y refusa. Toute sa pensée, tous ses sens, convergeaient au même but, garder son équilibre. Elle fixait un point à quelques mètres et s'avançait vers lui d'un pas saccadé. Soudain, une demi-douzaine d'habits noirs l'enlevèrent et la portèrent dans une avant-scène. Elle riait aux larmes, croyant à une plaisanterie. Une révolte cependant la raidit lorsque des mains fureteuses touchèrent à son domino. Elle eut conscience du danger qu'elle courait et colla ses poings crispés contre son loup de velours. En une seconde, sa ceinture fut brisée, sa tunique déchirée, des lèvres et des doigts violèrent la chair de sa gorge et de ses jambes. Elle se mit à crier désespérément. Elle se débattait à coups de pied, se tordait, mordait. On lui fit un bâillon de son mouchoir et on lui maintint les poignets et les chevilles. Alors, impuissante, elle pleura de rage. Une seconde fois, Verdol la sauva. Il avait grimpé en s'aidant des moulures du balcon. Deux de ses amis le suivaient. Il s'écria « Allons, messieurs, un peu de respect pour la présidente du nocturne !» Lucie gisait à terre, les vêtements en désordre. Il prit un burnous d'arabe dont il la couvrit. Elle se releva et sortit toute tremblante, accablée de honte. Paul la croisa. Elle lui dit « Viens, j'en ai assez ». Ils disparurent. Il pleuvait. Un fiacre les conduisit place Cauchoise. Ils descendirent le boulevard. « Ton mari n'est donc pas là ?» demanda Paul. Le grand air n'avait pas suffi à les remettre d'aplomb. Il titubait, décrivant des zigzags d'arbre en arbre. Lucie rassembla ses idées et répondit. « Non, il est absent. J'ai la clé des anciens magasins de la rue Stanislas. Surtout ne m'abandonne pas, je n'y vois pas clair. » Guère mieux qu'elle, d'ailleurs, il ne se dirigeait dans l'obscurité. Ils pataugèrent au milieu des flaques de boue, escaladèrent un tas de pierres. Il leur fallut 10 minutes pour faire manœuvrer la serrure. le lourd battant grinça, ils frémirent. « Adieu, » dit Paul. « Non, » supplia-t-elle. « Viens, je n'en puis plus. » Ils franchirent les bureaux, longèrent en tâtonnant les murs de la cour et gravirent l'escalier. Quand elle eut poussé le verrou de sa chambre, il protesta. « Et moi, je ne peux pourtant pas rester. »« Si, si, » grogna-t-elle. « J'enverrai les bonnes en course et tu fileras. » Elle tomba comme une masse au travers de son lit. Lui s'endormit sur un fauteuil. Mais au bout d'une heure ou deux, il se réveilla grelottant. Il eut pitié d'elle et la dévêtit. Elle reprit connaissance. Alors, ouvrant les draps, elle proposa d'un ton compatissant, sans arrière-pensée, « Et toi, tu ne te réchauffes pas ?